Radio Argout.
Bonjour, la semaine de l'écologie, ou du moins les deux jours, se sont ouverts le 9 mai à la Chaufferie. L'équipe des éco-délégués a travaillé sur le projet depuis quelques mois pour obtenir un programme varié, musique, poésie, art, science et vivant. On espère que les interviews élargiront votre point de vue sur notre planète, notre espèce et les conséquences de nos actions sur la biodiversité. C'est à notre génération de faire changer les choses maintenant pour faire que les prochaines existent. Ne soyons pas égoïstes et essayons de faire pérenniser ce petit point bleu, notre petit foyer interespèce cosmopolite. Je vous laisse écouter Aurélien Barreau, notre premier invité.
Radio Argout.
Bonjour, ici les éco-délégués d'Argouge. Nous recevons aujourd'hui Aurélien Barreau. Est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement, s'il vous plaît ?
Je m'appelle Aurélien Barreau, je suis astrophysicien, donc je travaille sur les trous noirs, le Big Bang, et je suis professeur à l'université Grenoble-Alpes.
Est-ce que en trois mots, vous pouvez nous résumer votre conférence ?
Alors ça, c'est un truc que j'aime pas, parce que je pense que, tu vois, c'est comme un livre de philosophie, s'il fait 600 pages, et qu'il a besoin de 600 pages. Donc en fait, ma réponse est non.
Ok.
Durant la conférence, vous nous avez dit qu'on avait choisi l'effondrement. Mais ça signifie quoi ? C'est quelle forme d'effondrement ? On doit baisser les bras ? On doit abandonner toute lutte et on doit continuer la destruction de notre planète ou...
Oui, alors tu as raison, c'est pas du tout ce que je voulais dire. Ce que je signifiais, c'est que de toute façon, qu'on le veuille ou non, on va entrer là maintenant dans un moment de contraction. Donc c'est déjà le cas, comme on l'a vu, hein, pour les animaux, les plantes. Et pour les humains, ça commence maintenant, en quelque sorte. Donc il y aura une forme d'effondrement, ce qui ne veut pas du tout dire naturellement que la totalité des humains vont mourir. Mais il y aura une forme de contraction. Et je crois pas du tout que ça doit être compris comme une invitation à l'inaction, en fait. Parce que c'est un peu comme quand on est au milieu de la guerre, bah, y a déjà eu beaucoup de morts, c'est la catastrophe, on sait que ça va être triste, mais entre une guerre qui fait 20 millions de morts et une guerre qui fait 200 millions de morts, bah c'est évidemment pas du tout la même chose. Et donc ce n'est pas parce qu'il y aura de façon certaine des dégâts et qu'il y a déjà eu des dégâts qu'il faut baisser les bras, à mon avis.
Pendant votre intervention, on sentait un peu une haine envers tout ce qui était informatique et science un peu. Mais par rapport à ces deux secteurs qui sont vraiment hyper présents dans notre société, donc qu'est-ce que vous proposez ? Comment on peut faire sans ces deux domaines ?
Bon, alors d'abord, je suis moi-même scientifique, hein. Je passe 10 heures par jour à faire des calculs et à travailler sur l'astrophysique, donc j'adore les sciences en fait. J'adore les sciences, mais je voudrais juste qu'elles soient à leur place. C'est-à-dire que les sciences, c'est magnifique, c'est sublime même, mais c'est un domaine de la pensée humaine. Et je trouve que le problème aujourd'hui, c'est que les sciences et surtout les techniques sont devenues en quelque sorte des régulateurs. C'est-à-dire que convoquer les sciences quand on a une question scientifique, c'est génial, comme convoquer les arts quand on a un désir artistique, comme convoquer la littérature quand on a une pulsion poétique. Et le problème aujourd'hui, c'est que finalement les sciences et techniques prennent tout l'espace et qu'en prenant tout l'espace, elles empêchent de réfléchir. On a l'impression que la technique pense pour nous. Mais ça, c'est faux, en fait. La technique, elle peut répondre à des questions, mais elle ne nous dit pas où nous souhaitons aller. Et c'est ça, la seule question qui est importante aujourd'hui. C'est où avons-nous envie d'aller ? Alors, j'ai aucune haine pour tout ça, mais je suis un peu gavé, en fait. Tu vois, là, on est sorti, on entend quelques chants d'oiseaux, on voit quelques pigeons qui sont devant nous, et de me dire que, en fait, là, dès qu'on va se quitter, le premier truc qu'on va tous faire, ça va être de sortir, et moi compris, hein, ça va être de sortir nos téléphones de nos poches pour nous replonger dans du numérique, je trouve ça juste triste, en fait. Voilà.
Est-ce que vous avez déjà pensé à une carrière politique ?
Non. Enfin oui, j'y ai déjà pensé, et la réponse est clairement non. Je pense que c'est pas là que ça peut se jouer. Voilà, je crois que certains font de leur mieux, certains font de leur pire. Mais en fait, je pense que le problème se pose très en amont de ça, en fait. Et il me semble que dans les structures actuelles, et avec l'état d'esprit actuel, et avec l'inertie actuelle, quand bien même je serais président de la République, ce que je ne serais jamais, ça m'intéresse pas du tout, j'aurais en fait extrêmement peu de pouvoir. Je pense qu'un poète, un artiste aujourd'hui, a un pouvoir de déconstruction du monde qui est énormément supérieur à celle d'un politique. Donc moi ça m'intéresse pas, même si j'ai de la sympathie pour ceux qui ont envie de se salir les mains et de tenter l'expérience. Mais je pense qu'elle est pas primordiale.
Pour conclure peut-être, est-ce que vous auriez des livres ou des vidéos à conseiller aux auditeurs ? pour s'intéresser plus sur le sujet.
En fait, par provocation, moi je dis un peu que si on veut vraiment faire de l'écologie radicale, faut pas lire des livres d'écologie. Parce que, en fait, justement, comme on l'a dit tout à l'heure, je pense que le problème, il est en amont. En fait, c'est vraiment un problème de d'ontologie. Alors, ontologie, c'est l'autre mot barbare, pour dire un problème vraiment de ce qu'est la structure du réel. Et donc, à mon avis, tu lis soit de la physique, soit de la poésie, soit n'importe quoi, en fait, qui d'un seul coup te fait une sorte d'électrochoc et tu te rends compte que le monde est beaucoup plus riche que ce que tu croyais. À mon avis, ça, c'est une démarche d'écologie radicale beaucoup plus forte que de lire des bilans carbone et des manières de lutter contre la pollution. Et donc, en fait, voilà, moi, je conseillerais plutôt, sans donner de nom, mais des livres un peu subversifs, presque au niveau politique ou artistique.
Du genre, peut-être.
Non, chacun choisira.
Ok, pas de problème.
Super.
Merci beaucoup.
Radio Argoût.
On se retrouve maintenant pour parler des cendriers écologiques. Donc, on a avec nous un élève et son professeur qui sont à l'origine du projet. Je vous laisse nous présenter ce que vous avez fait.
Ok, ça marche. Bonjour, je suis Maurice Doré, terminal CAP Log au sein du lycée à Gouges. Je suis avec mon professeur, M. Hadji, professeur de logistique.
Présentez-nous ce que vous avez fait. D'où vous est venue l'idée déjà ?
Bon, l'idée, bon, en fait, d'abord, on avait au début de l'année passée, on devait présenter un projet, en fait. Voilà, donc on était sur l'idée de savoir qu'est-ce qu'il fallait faire. Donc, avec les élèves ensemble en classe, on a essayé de développer, après plusieurs constats devant le lycée, des gens qui fumaient et tout, et on a constaté que les mégots gênaient un peu le lycée par rapport à l'image du lycée, en fait. Donc, du coup, on a décidé de travailler là-dessus. D'où est venue l'idée de créer le cendrier ludique et puis installer tout et tout.
C'est dans le cadre de chef d'œuvre. Hein. Donc, vous savez, en enseignement professionnel, il y a un module qui s'intitule le chef d'œuvre. C'est un projet souvent lié à l'économie sociale et solidaire. Et du coup, en fait, suite à plusieurs échanges entre mes élèves, ils ont opté pour ce choix. C'est la question, c'est de répondre à la problématique, comment traduire concrètement cette question environnementale au niveau du lycée Argouche. Voilà.
Et du coup, comment s'est procédé la création de ces cendriers ? Il y a eu différentes étapes ?
Ouais, il y a eu l'étape d'étude, c'est-à-dire voir comment est-ce qu'on pouvait faire en sorte de pouvoir éradiquer, c'est-à-dire bon, essayer d'une autre manière d'essayer de diminuer un peu les mégots devant le lycée. Donc, ensemble avec les élèves, on a essayé de voir les démarches, voir comment est-ce qu'on pouvait faire ça. Donc, on a essayé d'étacher un peu les tâches, en fait. C'est-à-dire, on a donné les tâches à chacun et ensemble, on a essayé de trouver qu'il fallait vraiment... L'impératif, c'était d'installer des cendriers ludiques. Donc, du coup, il fallait aller voir le proviseur, parler du projet, voir comment ça pouvait se faire. Donc, après, répartir, voir la mairie. Voilà, essayer de parler avec la mairie, tout et tout. Nous ont dit qu'il fallait voir le département. Donc du coup, après, on allait voir le département. Ça n'a pas été facile parce qu'il fallait voir la faisabilité par rapport au sol, tout et tout, voir des autorisations au niveau de la mairie, au niveau du département. Bon, par la grâce de Dieu, et puis on a essayé d'installer ça.
Ça n'a pas été facile.
Ça n'a pas été facile parce que du coup, ce projet a été fait en 2 ans. Donc du coup, il fallait faire des démarches administratives, c'est-à-dire voir le département, après aller voir le service régional, parler avec eux, voir comment est-ce qu'on pouvait installer tout et tout, donc ça n'a pas vraiment été facile.
Et ils sont en place depuis quand, ces cendriers ?
Bon, je dirais qu'ils sont en place depuis
fin mars,
c'est-à-dire juste après les congés des Pâques, juste avant les congés des Pâques, c'est ça ?
C'est ça.
Alors.
Oui, et en fait, l'intérêt pédagogique aussi, comme disait Maurice, c'est que ça a duré pratiquement 2 ans, mais il y a eu plusieurs phases, plusieurs étapes, et du coup, c'est les élèves qui ont réfléchi effectivement sur ces étapes-là. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, de comprendre comment on peut mettre en place un projet. Donc, c'était ça aussi l'intérêt. Hein.
Du coup, monsieur, le projet, il est venu des élèves eux-mêmes ou vous les avez un petit peu influencés dans leur choix ?
Ah, c'est une bonne question. Mais je pense qu'on ne les a pas influencés, parce que je ne suis pas seul, hein, je suis avec Mme Pizanti aussi, mais on les a aidés, c'est différent. On ne les a pas du tout influencés, peut-être positivement. Mais en fait, voilà, nous, on était là juste pour aiguiller, quoi, pour leur... Par contre, on a insisté le fait qu'il fallait absolument que ça vienne de deux, quoi. Mais on les a plus aider mais pas influencer, je dirais.
Donc, par rapport à ce que M. Hadji dit, parce que l'idée même des standards, il dit qu'il est venu d'un élève, au fait. En termes d'entendre et discuter entre nous et tout, c'est venu comme ça. Et on a décidé d'aller sur ce terrain-là, en fait. Voilà, donc c'est par rapport à ça que sinon, c'est pas les professeurs mais qui nous auront. Non, ils pensent pas, ils nous ont pas pisté, mais ils nous ont aidés dans les démarches. Parce que c'était pas facile, parce qu'il fallait maîtriser ce contour que nous, on maîtrisait pas.
Et c'est aussi notre rôle, hein, oui. Effectivement, de aider nos élèves à dépasser des difficultés.
Vous les avez soutenus tout au long du projet.
Oui, tout à fait.
On peut dire ça comme ça. Et puis aussi, il y a le lycée aussi qui nous a soutenus avec le professeur, M. Fayon, qui n'est plus là.
M. Fayon,
voilà, qui nous a aidés. Donc, il y a beaucoup de personnes qui nous ont aidés là-dedans. La mairie, le département, le service régional, parce qu'ils ont été gentils. Ils ont adhéré au projet. Parce que quand ils ont expliqué que c'était pour le lycée, ils ont dit « Ok, il n'y a pas de souci, nous accompagner. » Voilà.
Et depuis la mise en place des cendriers, vous avez remarqué qu'il y avait moins de mégots par terre ou pas vraiment?
Bon, en fait, c'est les nouvelles qui viennent. Bon, je dirais que les nouvelles sont bonnes parce que quand on entend les élèves parler, ils disent que, bon, ils constatent qu'il n'y a plus tellement de mégots. On ne dit pas qu'il n'y en a plus, mais ça a diminué considérablement quand même. Voilà. Mais dans l'ensemble, ça va.
Peut-être que vous pouvez expliquer le principe des cendriers ludiques, justement, parce que...
Bon, le principe des cendriers ludiques, c'était pour quoi, en fait? C'était pour essayer de récolter les mégots et ensuite les transformer.
Et du coup, qu'est-ce que vous avez fait pour donner plus envie aux...
Peut-être ta question, c'est effectivement de savoir en quoi consiste la question ludique, non?
Oui, c'est ça, exactement.
Voilà, et en fait, le but, c'était que les jeunes votent. En fait, il y a des questions ludiques, réfléchissent. En fait, c'est les élèves qui ont réfléchi sur ces questions-là. La première question, par exemple, c'était, vous dites, la Wi-Fi ou le Wi-Fi. Donc, au lieu, les jeunes, lieu qu'ils jettent leur mégot, donc ils votent par leur mégot, voilà. Donc, c'était quelque part les sensibiliser de manière ludique. Et là, la nouvelle question, c'était, est-ce que vous dites chocolatine ou pain au chocolat? Après, voilà, ces questions ludiques seront ouvertes à tout lycée, peut-être. Voilà.
Et en fait, comme il disait, en fait, c'était dans le vrai but du projet, c'était de comment faire pour récolter les mégots. Donc, pour nous, on s'est dit, il ne fallait pas imposer certaines choses aux gens, en fait. Il fallait emmener les gens eux-mêmes à adhérer à la chose. Donc, voilà, mener les gens eux-mêmes à adhérer à la chose. Donc, c'est-à-dire créer des questions. Ça va? C'est-à-dire créer des jeux. Et c'est juste quoi? C'était des votes. Voilà, c'est d'où est venue l'idée, les standards ludiques, voter. Ça nous permettait aussi de pouvoir récolter et aussi de diminuer aussi l'impact des mégots devant le lycée, en fait. Donc, en gros, c'est le but, en fait.
Et à quel moment vous récupérez les mégots? Parce que, comme c'est un sondage, à quel moment vous dites, bah stop, on arrête le sondage, on change de question, les mégots, on en fait quoi?
Bon, du coup, on devait partir sur une période, mais on a vu que, bon, quand en fait, c'est comme c'est des bacs, en fait, qui se remplissent. Dès qu'on voit que les bacs sont remplis, on change la question et on vide les bacs. Et les bacs sont ramenés au niveau du service d'entretien ici, non? Voilà, les services d'entretien qui, eux, maintenant, vont mettre ça dans vont ramener ça aussi au niveau du service départemental qui travaille avec une société.
C'est la mairie. C'est le service de la propriété de la mairie qui vont venir chercher ces pots remplis de mégots. Et après, la deuxième phase de projet, c'est effectivement de travailler avec une entreprise qui recycle ces mégots pour fabriquer des doudounes ou bien des tables et même des matières isolantes pour les bâtiments.
C'est ça.
Peut-être qu'on va demander à l'élève présent qu'est-ce que tu penses de ces cendriers.
Moi, personnellement, je trouve que c'est... bien. Je trouve que c'est bien comme projet parce que bah déjà il y a beaucoup moins de mégots par terre, même si on en a encore. Et puis moi personnellement je suis pas fumeuse, mais j'ai des amis qui fument et j'ai vu qu'ils utilisaient bien le cendrier, donc c'est bien.
Plus que par rapport à avant?
Ouais, voilà.
Donc c'est positif.
Oui.
Très bien.
Ouais.
Est-ce que vous avez peut-être un message passer de fin pour conclure?
Bon, le message de fin, c'est d'emmener les gens à toujours respecter l'environnement. Ça, c'est important. Et puis, de toujours mettre les mégots dans les sendéos ludiques. Ça va permettre aussi à donner une bonne image au lycée. Voilà, donc, j'encourage tout le monde à suivre le mouvement afin qu'on puisse essayer une autre manière de diminuer un peu les mégots de cigarettes.
Et si vous voulez participer à l'élaboration des questions ludiques, vous êtes les bienvenus, tous les élèves du lycée.
Et
voilà.
Comment ils font pour participer?
Bah, pour cette année, c'est en salle F203. de 15h30 à 17h, tous les mardis.
Ça marche.
Jusqu'à la fin de l'année, voilà. Merci à vous, du coup.
Merci à vous.
Radio Argoût.
On se retrouve pour parler de la fresque du climat qui a eu lieu cet après-midi pour la journée de l'écologie. Donc je laisse nos deux animatrices présenter ce qu'est la fresque.
La fresque du climat, c'est une association qui en gros propose un jeu de cartes qui réunit causes et conséquences. Et le but, c'est de mettre ces cartes en ordre chronologique pour à la fin voir juste les causes et les conséquences du climat, du réchauffement climatique. Et en partie par l'homme.
Et ça se fait seul, en groupe, enfin, très gros groupe.
Alors on a un groupe de, on va dire, de 3 à 8 personnes, pas moins, parce que après c'est les fresques sont beaucoup moins intéressantes. Et on a un animateur. Et du coup, ce qui va se passer, c'est que les personnes qui vont participer à la fresque du climat vont discuter, débattre sur comment placer les cartes. Et c'est un atelier de partage collectif qui met en lien toutes les connaissances des gens, qui est très sympa. L'animateur aura plutôt un œil extérieur à la fresque. Il va juste être là pour les guider. C'est en aucun cas un expert du climat. Mais il va juste les guider et répondre à leurs questions par rapport aux cartes. Pour qu'ensuite ils puissent créer cette fresque.
Et du coup, vous avez animé plusieurs fois déjà des fresques. Ça s'est bien passé à chaque fois ou il y a eu des petits problèmes ?
J'ai animé 3 fresques, c'était ma 3e fresque. À chaque fois, il n'y a pas trop de problèmes parce que les gens, ils sont là, ils sont curieux. Ils posent des questions. Il ne peut pas forcément se passer de problème vu ce qu'on propose. Il faut vraiment que la personne soit désintéressée. Et fasse n'importe quoi, mais c'est quelque chose qui est tranquille. Juste les gens, souvent quand ils en ressortent, quand ils sont pas trop au courant de tout ce qui se passe autour du climat, ils sont un peu choqués. Enfin, généralement on fait une pause au milieu parce que c'est un peu douloureux et lourd surtout à encaisser quand on n'est pas très, quand on s'y connaît pas trop en termes de climat. Mais sinon, il n'y a pas forcément de problème. C'est des gens qui sont vraiment contents. Ils sont curieux de faire cette activité qui n'est pas banale. Enfin, c'est pas un jeu classique auquel tu vas jouer le soir avec tes grands-parents. Et du coup, non, ça se passe toujours bien.
Et plus pour vous deux, du coup, peut-être toi. Les personnes, elles ressortent dans quel état d'esprit après ces jeux ? C'est diversifié ou c'est vraiment... Tout le temps pareil.
Par exemple, je vais prendre exemple sur tout à l'heure. Elles étaient assez, ils étaient assez entre le choc et un peu une sorte de désespoir parce que globalement, ils ont nommé la carte, la fresque, on va tous mourir. Mais après, ça dépend donc les gens et puis ça permet, c'est un mélange d'apprentissage et un peu ludique aussi. Donc ce que j'en ai retenu quand j'ai participé à une fresque une fois, c'est que j'ai appris des choses et en même temps ça permet de faire le point globalement, avoir une vision globale sur tout ce qui se passe et moi j'ai trouvé ça très intéressant. Donc les gens, je pense qu'ils sont très intéressés par vachement intéressés par ça.
On va peut-être demander au principal concerné.
Ouais.
Qu'est-ce que donc toi tu as participé à la fresque, c'est ça,
oui, c'est
cet
ça,
après-midi,
ouais.
Qu'est-ce que tu en as retenu ? Comment tu as vécu ce moment ? Dis-nous tout.
C'est très intéressant. Ça permet de mieux comprendre le réchauffement climatique et en même temps, c'est sous la forme d'un jeu un peu presque. Donc ça permet de... C'est plus... Ouais, c'est ludique. Donc on est plus intéressé et puis on apprend beaucoup plus qu'en cours, par exemple, des fois.
Et toi, ça... Ça a changé ton point de vue sur le réchauffement climatique ? T'as appris des nouvelles choses ?
J'étais déjà assez au courant du coup de ce qui se passait du réchauffement climatique, de toutes les conséquences, etc. Et puis ça permet aussi du coup de voir vraiment toutes les conséquences dramatiques qu'il y a derrière à cause du réchauffement climatique. On se retrouve au début avec quelques cartes et puis à la fin, donc ce sont les causes. Et puis à la fin, toutes les cartes conséquences, du coup, il y en a plusieurs. On a énormément, en fait, et on se rend compte que tout ce que nous, humains, nous provoquons, en fait, c'est que des catastrophes, etc., avec le réchauffement climatique, en partie.
Et quand t'en es ressorti, t'étais en mode c'est la déprime, c'est horrible, ou plus quand même dans quelque chose avec de l'espoir, où tu t'es rendu compte, t'as compris, mais que quand même, ça pouvait aller.
C'est... Je sais vraiment, on avait nommé du coup notre fresque « On va tous mourir ». Mais en même temps, après, il faut essayer un peu de rester positif, d'essayer de voir un peu, de se dire qu'on peut changer, essayer d'améliorer un peu les choses, etc. Il ne faut pas rester en se disant qu'on va tous, on va tous mourir. Ouais, ça va être, oui, ça va être compliqué si on n'agit pas, mais si on agit, on peut encore un peu faire en sorte que le futur soit meilleur. Donc il faut rester un peu positif, quoi.
C'est très bien, c'est un bon mot de fin.
Ouais.
Ouais.